Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Charigues des Olmeta, diffusée en direct mercredi 25 juillet 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Amis auditeurs, bonjour. C'est une nouvelle fois l'envie de vous dire, c'est une envie pressante, de vous dire que je suis très heureux de vous retrouver, comme à chaque fois. Ça a l'air banal, mais c'est vrai. En définitive, 4 semaines, c'est un peu long, vous me manquez. Mais j'en profite pour remercier ceux qui me laissent des messages, qui m'envoient des mails, qui essayent de me joindre au téléphone. J'essaye de répondre à tous, et même à ceux très très rares, qui sont parfois désagréables. Mais je réponds à tout le monde. Bien, ce matin, je suis très heureux d'avoir avec moi deux amis. Alors, je vais les citer même pas dans l'ordre alphabétique, comme ça, en regardant devant moi, Roland Ely, et en regardant à gauche, excusez-moi, Benoît Mancheron, qui sont venus pour que nous parlions un peu livres, entre autres du mien, bien sûr, et puis aussi de quelques autres. Enfin, c'est une réunion de copains, si vous voulez. Alors, on avait eu une idée que, comme Benoît Mancheron est mon suppléant et vice-versa, de renverser le jeu, qu'il devienne le patron de l'émission et moi le client pendant ce temps-là. Et puis, nous nous sommes dit qu'après tout, on va rester dans la technique habituelle. Ça sera plus clair pour tout le monde. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire les livres, je voudrais vous dire quelques mots, comme d'habitude. D'abord, une excellente nouvelle. Ça a été très difficile, mais j'ai eu des nouvelles de notre ami Rondeau. Et alors l'ami Rondeau, moi je suis en admiration parce que il se passe pas une semaine ou un mois sans qu'on lui enlève quelque chose, la vésicule, un rein, et il est toujours là, toujours debout. Je l'ai eu au téléphone et la voix était claire et bon, il se fait pas trop d'illusions, mais il croit en la vie et j'étais très très heureux de l'entendre. Et encore meilleure nouvelle, j'ai eu un SMS de notre ami des Ronchons, Dominique, qui me disait « Je suis allé à une cérémonie d'enterrement, j'ai rencontré notre ami Rondeau qui y était ». Bon, ça prouve déjà que Rondeau n'est pas à l'hôpital pour l'instant, il paraît qu'il est méconnaissable, mais il est debout et il s'apprête à avoir de nouvelles opérations. Alors, ben, nous allons le recommander au Seigneur, mais pour l'instant, il est toujours là alors qu'on avait des gros doutes. Bon, quelque chose de plus joyeux quand même. La Coupe du Monde, oh, je ne veux pas épiloguer, mais j'ai remarqué que alors que nous sommes dans des périodes d'économie, surtout pour les autres, le président de la République n'y va pas de main morte, puisque, moi, je sais pas, ça coûte un peu de sous quand même. Deux voyages en Russie dans la même semaine, aller-retour, enfin on prend ça comme des taxis, et il faut savoir quand même que le protocole et la sécurité exigent qu'il y ait d'autres avions qui encadrent l'avion présidentiel. Je pense qu'on est dans une période d'économie formidable, donc il aurait pu effectivement... Il restait au bord de la mer Noire, enfin j'en sais pas. Mais je trouve que ça coûte un peu cher tout ça. Et j'en profite pour poser une question. Que le président de la République aille saluer les vainqueurs de la... Enfin, aille assister à la Coupe du Monde et reçoive après les vainqueurs, ça me paraît tout à fait normal. Et moi qui n'ai rien à fiche du football, malgré mon nom Chiriguez, qui a été un des plus grands gardiens de but du Real dans les années 36 et qui fait l'objet d'un gros article dans l'encyclopédie du sport de... d'Hachette, je m'en fous, c'était le demi-frère de mon père, je m'en fous complètement, mais je suis content quand mon pays pays gagne. Même si c'est le concours de pétanque, si mon pays gagne, je suis content. Donc c'est très bien. Mais je me pose la question. Voilà deux grands gros voyages accompagnés. Hypothèse de travail, mais tout à fait possible, si en cette année, le prix Nobel de médecine est décerné à un Français, est-ce que M. Macron prendra l'avion pour aller à Stockholm le soir de la remise du prix? Voilà, je pose la question. Dernière petite chose, et il y a 15 jours, je suis rentré de Châteauroux, c'est pas bien loin de Paris, et ben le train est tombé en panne à Juvisy, on a fini en RER à moitié à pied, etc. Et samedi dernier, je rentrais d'Amsterdam, grande période de vacances. J'ai pris le Thalys à Amsterdam. 20 minutes après, le Thalys s'est arrêté. Et nous sommes rentrés à Paris avec 6 heures de retard, en ayant changé 3 fois de train, en traînant les valises, etc. Donc, eh bien, je félicite une fois de plus M. Pépi, qui est lui aussi partie prenante dans le Thalys. Et le personnel français ou belge, il n'y avait absolument plus personne. Et c'est le personnel hollandais qui essayait de nous aiguiller et d'être très aimable et qui a servi à boire, qui a donné des sandwichs, etc. Voilà, c'est tout. Maintenant, je me remets dans l'émission. Je sors de toutes ces petites contingences pour être avec mes deux amis qui vont me retourner sur le grill. Alors, nous sommes en route.
Chers amis, cher Roland, nous sommes un peu réunis autour d'un monument.
Un vrai monument.
Un monument de...
Le livre,
de
hein, pas moi.
Oui, on s'était tous compris.
De 606 pages. De 606 pages. Un monument qui est de plus d'un kilo.
Alors, je vais vous faire une confidence. Tout le monde a eu dans les mains ou a vu le premier tome des mémoires du président Le Pen, qui est quand même aussi un pavé intéressant. Oui. Eh bien, nous l'avons...
Abonnement.
Tous les deux, nous avons pesé nos livres. Je fais 200 grammes de plus que le président.
Bon.
Beaucoup moins de ventes, je le regrette pour mon éditeur, mais 200 grammes de plus que le président.
Alors, l'ouvrage en question s'intitule « Mon rétroviseur de droite ». Et je dois dire que c'est vous qui avez trouvé ce titre, cet intitulé, pour réunir 30 ans de textes.
Voilà, 30 ans de textes dont la grande quantité sont des textes qui ont été écrits sous l'égide de Serge Lebeckec. Il ne se mêlait pas de ce que j'écrivais, mais enfin, c'était quand il était directeur de Minute La France et après quand il a créé son journal. Et puis, dans la foulée, pour étouffer un peu et pendant que j'y étais, j'ai dit, tiens, j'ai écrit quelques papiers pour Synthèse Nationale. Eh bien, si, on va les inclure. Il y a aussi quelques transcriptions écrites d'émissions qui avaient lieu ici de Serge, et on va les prendre. Et puis, pour amuser un peu nos amis, j'ai ressorti les textes que j'avais publiés dans Humanisme quand j'étais membre du Grand Orient de France, pour montrer aussi que je sais un peu passé partout. Quoi.
Voilà. Vous êtes un homme de synthèse.
Oui, on va dire ça comme ça. Enfin, la synthèse, elle a été vite faite avec la franc-maçonnerie. Enfin, vite fait. Parce qu'au bout de 27 ans, j'ai dit, bon, ça va, je me suis trompé. Voilà.
Oui, alors on a compris pourquoi Roland Ely était donc présent, puisque Roland Ely a publié un petit tiers de l'ouvrage.
Un tout petit tiers.
Ah oui, mais un tiers tout de même, dans la revue en fait, qu'il a fondée et qu'il dirige encore actuellement.
Mais je ne pouvais pas faire autrement non plus, puisque Roland Ely, en ayant consulté les gens ayant droit, m'a demandé un jour si j'acceptais d'être le président de l'association des amis de Synthèse Nationale, et je ne m'attendais pas à une telle proposition qui m'a beaucoup touché, même si je me suis pas roulé par terre, mais ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, moi? Oh ben bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup d'honneur. Alors c'est une des raisons pour que tu sois là. Enfin, nos auditeurs vont s'apercevoir que, comme à l'Élysée, ça marche entre copains, les combines sont, mais sauf que les résultats sont pas tout à fait les mêmes.
Hein. Écoute, et si on ne se dit pas du bien les uns des autres, qui en dira?
Qui en dira?
Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est non seulement un honneur aussi pour moi en tant que directeur de la revue, et une joie surtout d'avoir Jean-Paul, d'être le président des amis de l'association des amis de la revue. Voilà.
Chers auditeurs, c'était notre séquence tirage de pompe.
Mais c'est vrai que je me souviens effectivement, il y a un moment maintenant, ça fait presque 8 ans au moins, on avait eu l'occasion de discuter de tout cela, et je vous ai demandé, mon cher Jean-Paul,
ça m'a beaucoup
de collaborer à la revue, et depuis...
C'est le mot collaborer qui m'a plu.
Depuis, oui. depuis, il y a les pages du Marquis.
Voilà.
Et je dois dire qu'il m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent, bah, la première chose qu'on fait en ouvrant votre revue, c'est de regarder les pages du Marquis. Bah, ah, ça continue, là.
C'est incroyable ce que tu me dis, parce que quand Serge...
On se tutoie, allez, hop.
Oui, c'est, ouais, bah, on est, oui, on c'est vrai qu'à l'antenne, on se dit vous, mais on se dit tu dans la vie tous les jours. Alors, ouais, c'est drôle ce que tu me dis, on n'en avait jamais parlé, parce que quand le livre journal de Serge Beketch a été lancé, ouais, qui m'avait confié la page 22, qui était la page, entre guillemets, people du journal, c'est fou le nombre de gens qui lui disaient, oh, c'est formidable, votre journal, j'ai lu un tel machin. Mais je commence toujours par la page 22. Ouais. Et ça finit, tu vois, c'est,
ouais, ouais, non, mais c'est vrai.
Et Serge, à la fin, ça l'agaçait un petit peu quand même.
Bon, bah, oui, parce que c'était la page, les pages un peu divertissement.
Bah, voilà, oui, bien sûr, bon, c'était pas les pages sérieuses.
Mais en l'occurrence, dans votre revue, ça ne sont pas des pages divertissement.
Non, c'est une, ça s'appelle les pages du Marquis. C'est une chronique,
oui,
donc
qui sort un peu de la politique.
Qui sort un peu de la politique. Qui parle, ils remettent un certain nombre de choses à leur place. Oh. Toujours avec le talent qui est celui de Jean-Paul. Et on n'arrête pas.
Alors, donc, mais on en parlera. Enfin, on évoquera quelques-uns des.
Et les lecteurs du livre Mon rétroviseur de droite pourront effectivement retrouver une partie de ces articles.
Exactement. Qui ont été publiés. Et précisons qu'en dernière analyse, enfin. Dernière position figure des réflexions et portraits au fil du temps.
Et qui n'ont jamais été publiés.
Et ça, je trouve que ça.
Et c'est mon petit journal intime.
Oui, on peut dire cela. En tout cas, quelques témoignages, notamment à propos de Serge Beketch, évidemment, à qui vous dédiez ce livre.
Oui, parce qu'on est dans. Ça va faire 10 ans maintenant qu'il est à la maison du père. Et on s'en. Enfin, moi, je ne m'en remets pas.
Voilà. Bonjour, finalement, bonjour. Ce livre vous caractérise particulièrement bien, en dehors du fait qu'il n'aborde pas les questions d'équitation, de course, etc.
Ah ben
ça, cette partie-là est totalement escamotée, mais pour tout le reste, le théâtre, le cinéma, les lectures, les balades, les voyages, les planches, oui, les restaurants,
la bonne vie, quoi.
Voilà. Et puis les humeurs, bon.
Oui, ça, oui.
Les coups de colère politiques ou autres.
Ça fait du bien, ça défoule.
il égrène au fil de ces 600 pages un peu tout ce que vous avez pu ressentir. Ouais,
c'est la confession d'un enfant du siècle, ouais, même sur 30 ans.
Oui, avec moins tout de même de transgression que M. de Musset.
Ah, bah non, bien sûr. Oui. Non, mais enfin, c'est pour donner une idée. Maintenant, pourquoi pas, pas trop de chevaux, parce que déjà, vous avez édité un livre sur le sujet. Et puis, bon, le boulot, c'est le boulot, même si c'est une passion.
Et puis, vous aviez déjà cessé?
Ah oui, moi, j'ai commencé à écrire une fois que j'étais à la retraite.
Oui. Donc, vous avez été à la retraite donc après 90.
J'ose pas dire à quel âge je suis parti à la retraite.
Très jeune, très jeune.
J'avais 57 ans. Oui, non, mais je pense à ceux qui.
Comme les cheminots, alors.
Oui, c'est ça. Je pense à ceux qui vont venir derrière, les pauvres, ils vont pas partir à 57 ans. Non.
Alors, évoquons quelques aspects, évidemment, de cet ouvrage. Vous avez rédigé un petit avant-propos. En disant que finalement vous plaisez à rappeler ce qu'écrivait Georges Simenon en ouverture de certains papiers, tout est vrai mais pas toujours exact.
Si je vous dis que j'ai rencontré en tout bien tout honneur, faut faire attention en ce moment, et puis des gens comme ça passent pas leur vie au lit, que j'ai rencontré Jean Cocteau, c'est vrai. Si je vous dis que la cravate qu'il portait la première fois que je l'ai vue était bleue, c'est pas sûr que ça soit exact. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Les choses sont vraies, mais elles sont pas forcément exactes.
Ouais.
Moi, je sais que on se connaît depuis fort longtemps, mais il y a eu une espèce d'éclipse à cause de la vie. On s'est connus à propos du premier anniversaire, Roland, de la mort
du général Franco. Ouais.
Donc ça fait un moment. Alors après ça, je me souviens qu'on s'est connus là. Mais
on a même été à Madrid ensemble.
On était à Madrid ensemble. Mais alors, quelle était la marque de la bagnole? Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc si vous voulez, c'est vrai, mais ça ne peut pas être complètement exact.
C'était un espace, on ne dira pas de nom, parce qu'après on va dire on fait de la publicité.
Mais si tu veux, moi je me rappelle.
C'est une grande voiture.
Et vous avez mis longtemps à y aller, non?
On raconte l'anecdote ou pas?
Vous devez raconter l'anecdote parce que ce livre comporte un passage où vous évoquez la question de l'Espagne et Franco. Oui.
C'était au début des années 90, si je me souviens bien, et notre regretté ami Olivier Grivaldi, qui était président du cercle franco-hispanique, avait organisé tous les ans un voyage à Madrid à l'occasion de l'anniversaire de la disparition du général Franco et celle de José Antonio Primo de Rivera. Et Et cette année-là, je ne sais plus pourquoi, ça avait été un petit peu organisé à la va-vite, si bien qu'il n'y avait pas de car, comme d'habitude. On y est allé une fois en car aussi, si je me souviens bien. Mais là, cette année-là, il n'y avait pas d'autocar pour y aller. Il avait donc loué des voitures, des espaces R. On ne va pas dire le nom de la marque. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Et donc, on avait c'était longtemps après la mort de Franco.
Ah, c'était dans les années 90.
Ah, 90.
Les années 90, d'accord, il n'y avait plus les grands rassemblements de la Plaza d'Orienté, mais enfin, il y avait encore quand même quelques beaux restes. Et Olivier, qui était un farceur, m'avait pas prévenu que j'étais le seul chauffeur. Ah. Si bien que je me suis retrouvé avec quelques personnes, dont notre ami le marquis, dans la conduire, et je vous ai emmené de Paris à Madrid sans arrêt. Enfin, je me suis arrêté une heure pour dormir, je crois, et c'est la folie. Oui. Et voilà comment on est arrivé. On s'est retrouvé à ce moment-là.
Tout ça était.
Mais ça reste de bons souvenirs. Bon, alors, je veux dire quand même, j'étais crevé. Hein.
J'étais crevé. Et je vous ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir sur le fond. Mais quand nous sommes arrivés à Los Caídos, le prêtre qui distribuait les clés, les machins, tout ça, qui était l'abbé Palat Canet, était le chapelain de la duchesse de Franco. Et c'était le curé à l'espagnol, où ils sont complètement austères ou totalement loufoques. Il était dans la deuxième catégorie.
C'est vrai.
Et je l'ai perdu de vue pendant des années, parce que bon, c'était fini. Ouais. Et un beau jour, je vais à Saint-Rita, l'église gallicane, ouais. Et qui je vois dans une stalle, l'abbé Palat Canet, qui était devenu gallican. Voilà, mais qui avait bien vieilli. Pauvre.
J'imagine. Et puisqu'on est dans ce sujet, c'est une partie de votre vie que l'Espagne. Bah, puisque vous étiez.
C'est pas moi qui l'ai voulu, mais ayant un peu bricolé à la fin de la guerre d'Algérie, j'ai pas fait grand-chose. Mais il suffisait d'insulter le général de Gaulle, c'était atteinte.
Vous étiez un enfant à l'époque. Vous étiez un enfant à l'époque.
Tu peux me dire tu.
Hein, oui, j'étais un enfant à l'époque. C'est vrai.
Non, j'étais un grand garçon mal élevé. Et enfin, bref, bon, je passe les détails, j'arrête de le raconter 100 fois. Je me suis retrouvé en tôle parce qu'ils ont été assez salauds. Ils auraient pu me mettre de la prison. Pendant que je faisais mon service militaire, comme ça aurait rallongé le service d'un mois, mais on n'en parlait plus. Tandis que là, on a attendu que je sois sorti pour que ça soit vraiment un truc civil et que je me retrouve à la santé. 31 jours. Et quand je suis sorti, mon père qui était encore vivant, pour lui je n'étais qu'une merde, parce que lui il avait connu le général de Gaulle qui avait sauvé la France, moi je connaissais que celui qui avait bradé l'Algérie, donc avec mon père, avec qui d'ailleurs j'avais aucun rapport, donc ça n'arrangeait pas. Et tout le monde, personne voulait de moi, c'était terrible. Et j'ai un copain qui était batteur, qui un peu de musique, qui avait déniché un business pour l'été dans une espèce de faux sous-club méditerranée à Palma de Mallorca. Et il m'avait dit, tiens, il cherche un animateur, si tu veux. C'était l'époque, d'ailleurs, où tout ce qui était coco, machin, vomissait l'abominable dictateur Franco. Mais on allait chez lui, parce qu'il y avait le soleil, et ça coûtait pas cher, et qu'on pouvait traiter les Espagnols qui étaient à votre service comme des esclaves. Bon, bref, je me suis retrouvé dans ce camp de vacances, très bien. Et puis, je parlais pas espagnol, c'était pas très pratique. Alors le soir, je faisais danser les greluches, les cénodactylos qui étaient en vacances, tout ça. Et puis, la saison est finie, tout le monde est rentré. Moi, je suis resté parce que, en France, je ne trouvais rien. Et pour se distraire, les enfants du gouverneur militaire de Palma venaient de temps en temps dans notre club. C'est dire s'ils devaient s'emmerder. Et j'étais bien en amitié avec la fille du gouverneur et qui avait pour parrain le marquis de Montderrar, le précepteur de Juan Carlos. Et ce monsieur a eu pitié de moi, il s'est occupé de moi, et je suis resté 2 ans en Espagne, où il m'a trouvé des boulots d'animateur, des machins comme ça. Il m'a fait rencontrer le comte de Barcelone, il était lui-même le précepteur de Juan Carlos, donc ça explique des tas de choses. Puis enfin, au bout de 2 ans et demi, je suis rentré à Paris, et là, mon ami Michou m'a fait rencontrer quelqu'un qui était un personnage important, c'était le président du syndicat de la presse hippique, qui a décidé que je serais son filleul, et qui m'a fait entrer dans les courses.
Et tu as rencontré, pardonne-moi.
Non.
Tu as rencontré Juan Carlos, je crois. Tu le racontes d'ailleurs dans un article.
De Synthèse Nationale.
Il
figure dans l'ouvrage.
Il y a deux ans et demi, à la demande de son aide de camp, je suis allé passer 2 jours à Séville pour déjeuner avec lui.
D'accord.
Voilà. Et puis j'ai rencontré Franco aussi.
Tu racontes dans un article
Prenant le thé dans l'appartement de la fille de Franco. Il commence à y avoir des petites grèves dans les Asturies, ce qui est un événement considérable. Et il y a Juan Carlos, tout le monde était là, sauf la reine Sophie, enfin la future reine Sophie. Et on écoutait la radio. Et puis, par courtoisie, l'aide de camp traduisait pour les 2-3 Français qui étaient là. On n'était pas beaucoup, on prenait le thé, on était assez tout vite. Et Juan Carlos dit à un moment. au général Excellence, quand j'aurai le pouvoir, qu'est-ce que je devrais faire quand il va y avoir de telles manifestations qui vont forcément éclore ? Et j'entends le général Franco, puis il y a d'autres qui l'ont noté, qui lui répond « Et Altesse, je ne vous donnerai aucun conseil, vous n'en ferez qu'à votre tête quand vous serez au pouvoir. Ouais. » et ce qui prouve que Franco voyait vraiment clair. Voilà.
Oui. Bon. Oui, alors évidemment, on pourrait
pas beaucoup d'illusions.
On pourrait développer quand même, dire est-ce que vous pourriez donner votre avis sur ce qui se passe en ce moment. Sur le,
moi, je vois déjà que le roi est
Franco déterré.
Oui, déjà. Oui, je crois que je voulais.
Vous croyez que ça va se faire vraiment ?
C'est probable. Mais je vous ai dit, comme on en a parlé la première fois, j'ai dit, seule chose pour moi qui est presque un bonheur, c'est que la fille de Franco soit morte.
Oui.
Parce qu'elle en a tellement vu. Bon, là, c'est le pompon. On ne peut pas faire mieux.
Oui, parce qu'on lui a retiré tout au fur et à mesure.
Bah, sauf l'argent, quoi. Enfin, je veux dire, parce qu'il y avait des trucs placeurs. Enfin, elle n'a pas vécu non plus comme. Enfin, bon, elle a vécu correctement jusqu'à la fin de ses jours. Mais tous les plaques de rue, machin, enfin, rien.
Les mensonges, surtout les mensonges qui sont.
Les mensonges, bien sûr, oui. Et bon, plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de lui dire en allant à Madrid, mais bon, pourquoi vous fichez pour le camp aux Philippines ou ailleurs ? Enfin, bon.
Oui.
Ah ben, dis donc, c'est mon pays.
Récemment, le gouvernement, en fait, est revenu un petit peu sur sa décision là, j'ai vu un article il y a quelques jours, je ne sais plus quelle agence, mais comme quoi ils revenaient, parce qu'ils avaient décidé de le faire rapidement, et en fait, ils l'ont reporté un peu plus tard.
Ah bah voilà.
On commence à reporter parfois.
Non, ils temporisent, mais ça veut pas dire.
S'il y a des manifestations tous les jours devant la.
Ah, il y a des manifestations.
Oui,
attention.
Ah, bon. C'est d'ailleurs un élément intéressant, d'ailleurs.
Et puis, vous avez vu que Juan Carlos est en proie à des révélations d'amantes.
Ah ouais.
Pour essayer de décrédibiliser.
De toute façon, il a besoin de personne, il s'est décrédibilisé tout seul et je le regrette pour lui. Et en plus, il y a quand même des demandes en reconnaissance de paternité et on sait que c'est lui, le papa. Mmh, mmh. Bon, ça a été. Juan Carlos, il a fonctionné comme ça. Il s'est retrouvé investi d'une mission. Ça correspondait à ce que souhaitait son père, le rétablissement de la monarchie, pratiquement à n'importe quel prix. Mais Juan Carlos, après. S'est dit, maintenant, je suis chargé d'un boulot, et il l'a fait. Il a remis l'Espagne sur les rails qu'on souhaitait. Évidemment, bon, la démocratie s'est installée, donc les cambriolages ont commencé. Enfin, non, mais pour faire court. Et puis, au bout d'un moment, quand tout s'est mis en route bien comme il faut, quelque part, sans le dire vraiment, il s'est dit, maintenant, je me suis marié, c'était pas vraiment. Bon, j'ai fait des enfants, c'est très bien. J'ai pris la succession de Franco, maintenant, je prends des vacances. Et là, il a commencé à faire des conneries.
Ouais. L'Espagne est surprenante.
On va pas rester toute la journée sur l'Espagne.
Alors, une petite anecdote, mais c'est amusant. Il se trouve qu'il y a, pardonnez-moi de parler de moi, mais c'est le clan. C'est pas du tout pour ça, mais il se trouve qu'il y a, deux mois ou un mois et demi, j'étais invité à Barcelone pour faire une conférence, invité par des phalangistes locaux de Barcelone, qui a une belle réunion d'ailleurs. Et alors, en début d'après-midi, il y a eu un déjeuner. Et le déjeuner était dans le cercle militaire. C'était au cercle militaire de Barcelone où rien n'a changé. Enfin, s'il y a le portrait du roi à la place du généralissime, mais rien n'a changé. Les couverts sont les mêmes. les gens. Alors, c'était les mecs en chemise bleue.
Là, tout récemment.
Ah, il y a deux mois. Dans le vrai cercle militaire, on savait pas si on tournait un film ou si on était.
Le problème,
c'est formidable.
Pour tous ceux qui veulent tout casser, le problème, c'est qu'il y a l'armée.
Et là, ça n'a rien bougé. Les mecs.
Dans l'armée, il y a très très peu de
ça rigole pas. Hein.
Non, ils sont restés très, très militaires. Bon, voilà. Et justement, c'est peut-être ce qui peut sauver un peu le roi. Qui doit quand même, à mon avis, il vaut mieux qu'il ait une valise prête. Mais bon, il y a l'armée encore qui est avec lui. Mais il n'est pas brillant. Et puis, il a sa famille sur les bras.
Enfin, heureusement, il a un fils honnête. Bon.
Et non, je vous parle plus de Juan Carlos, je vous parle de l'actuel roi, de Felipe.
Oui.
Ben, il a sa famille sur les bras, sa sœur.
Oui,
Bon, c'est son bonhomme a ramassé 20 ans en prison.
Cela étant dit, sur l'histoire de l'indépendance de la Catalogne, il n'a pas, à ma connaissance, il n'a pas flanché.
Non.
Il faut lui reconnaître ça.
Ah oui. Il n'a pas flanché, mais tout le monde s'en fout de ce qu'il
a fait. Oui, mais il n'a pas flanché. Il aurait pu se joindre au concert des.
Non, mais moi, ça a pesé. Ça a pesé quand même.
Je crois que ça a pesé.
Parce qu'aujourd'hui, il y a plus toutes ces manifestations permanentes.
Ah, c'est fini. C'est fini.
Bon.
Oui, mais on l'attend au virage avec sa femme.
Bon. Donc,
il a épousé une roturière qui a plutôt l'air d'une. D'une actrice que d'une reine. Enfin bon, là, on est en train de le chercher de ce côté-là.
Ah.
Vous savez, quand on cherche, on trouve.
Bon. La parenthèse espagnole est donc tournée. Voilà.
Ça n'aura pas duré 30 ans.
Alors disons quand même un mot des morceaux choisis, écrits pour les revues maçonniques. Le plus drôle, c'est que l'une des planches enfin publiées là est assez intéressante. Elle concerne l'élite et la démocratie. L'élite en démocratie. Vaste sujet.
Si vous l'avez lu complètement, c'est un gros morceau.
Et alors, il se termine en disant « Si aimer son prochain est l'élitisme du cœur, alors oui, le franc-maçon s'accommode de ce vocable. Si l'élitisme est un moyen de domination sur autrui, il en va ô combien différemment. » Et votre commentaire actuel, puisque vous commentez évidemment ces vieux textes, c'était certes très bien, mais parfaitement homme. Depuis, j'ai simplifié, je m'en remets à Dieu.
Ah oui. Oui.
Dans un tout autre genre, le Grand Orient de France m'a demandé pour sa publication une étude sur le phénomène café-théâtre. Alors à son apogée, et cette étude parue en décembre 81. Et on peut dire que le café-théâtre est aussi une de vos spécialités. Quand on parle de la vie parisienne, on parle du café-théâtre.
Le café-théâtre, au départ, sottement, c'était le théâtre du pauvre. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de... Le café-théâtre, c'était dans une cave, quelqu'un qui tendait un chapeau, à qui on offrait une bière et qui montait sur une chaise et disait trois poèmes. Aujourd'hui, dans les cafés-théâtres, il y a trois décors, 20 comédiens. Enfin, c'est devenu aussi du vrai spectacle. Mais c'est un phénomène de société qui est très français et très intéressant et qui a permis à des gens de découvrir, plutôt que de s'enquiquiner à lire des poèmes, en les écoutant déjà ça va mieux. Et ça...
Vous dites que c'est de nombreux comédiens ont été comme ça découverts. Et Dieu sait si la comédie vous intéresse, puisque vous avez été contrôleur.
J'étais contrôleur général assermenté de la Société des auteurs.
Et vous dites donc que de nombreux comédiens ont été remarqués grâce au café-théâtre.
Oui, absolument.
Miu Miu, Coluche, Patrick Devers, quelques auteurs ont dérangé la critique, Jean-Michel Ribes. Bon.
Ah oui. Ah mais Jean-Michel Ribes, c'est pas ma tasse de thé, mais il a un talent fou. Hein. Ça, on peut pas dire le contraire, mais bon. Mais alors, on remarquera quand même que tous les gens qui sont sortis du café-théâtre, il n'y en a aucun qui a fini à la Comédie Française pour jouer la tragédie.
Et comment vous expliquez cela?
C'est parce que c'est tous plutôt...
Il y a une ségrégation
Non, je vais être très vache pour la Comédie française. Bérangère Dautin, qui était à ta place il y a quelque temps, me pardonnera. C'est beaucoup plus facile de jouer la tragédie que de sauter par-dessus les canapés dans un Phédo ou d'un truc comme ça. Parce que quand vous avez bien l'ascension des vers, si vous connaissez bien le texte, alors après il y a un peu jouer du Phédo ou du Labiche, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut courir, il faut sauter, il faut rentrer dans les placards,
c'est sportif.
Il faut avoir le ton. Puis en même temps. Le ton, tandis que la tragédie, c'est... J'ai rien contre, mais je dis, c'est plus facile. C'est l'explication que, comme les gens de café-théâtre, c'était plutôt axé sur les choses drôles. On n'a pas vu des jeunes gens au café-théâtre jouer le Cid.
Oui. Voilà. Alors, vous évoquez la question de la dernière tentation du Christ.
Oui, moi j'ai pas compris.
À l'époque, vous aviez.
Mais j'ai pas compris le procès qu'on faisait à ce film. Peut-être que je l'ai mal compris. Et l'ayant revu, j'ai trouvé que c'est un très beau film. Alors on me pardonnera. Alors maintenant, là, j'ouvre une parenthèse que je referme. Je ne vois pas. La censure, quelle qu'elle soit, m'agace. Mais je veux garder le droit de critique et de critiquer sévèrement. Mais je ne m'autorise pas à aller foutre le feu à un théâtre qui joue quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà.
Alors, vous dites aussi, pour conclure sur ces morceaux choisis, vous remettez un peu les choses en place d'une manière très intéressante et tout à fait dans la ligne, d'ailleurs, du Père Vio, qui écrit à peu près la même chose que vous. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a soutenu avec efficacité et sans faille le trône et l'autel.
C'est vrai.
Ça va faire hurler un certain nombre de personnes. Mais vous dites que le rationalisme n'avait pas pénétré dans les loges.
Mais non.
Et... Vous citez entre autres Jacques Bainville, d'ailleurs, à ce sujet.
Oui. Et c'est vrai. Et même après,
Les plus grands légitimistes et les plus grands défenseurs de la royauté, dites-vous, et vous citez tout un tas de noms.
Bien sûr. Mais à Versailles, il y avait...
Les Casses, les Noailles, la Galissonnière, les Clermont-Tonnerre.
À Versailles...
Les Barentins.
Il y avait une loge. Oui. Et on disait, je suis initié à l'Orient de Versailles. J'ai une médaille, moi, de la loge de Versailles. Et ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est que vous pouviez avoir le duc de Noailles qui était apprenti et son valet de chambre qui était le vénérable dans la loge. Et quand la cérémonie était finie, chacun reprenait sa place. C'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Et je vais jusqu'au bout. En France, évidemment, si vous êtes catholique, vous êtes excommunié de fait.
Oui.
Le fait de penser
bien
que vous
sûr,
allez être franc-maçon, vous êtes excommunié. Mais à l'époque, il fallait, pour qu'une bulle d'excommunication soit valable en France, qu'elle soit enregistrée par le Parlement. Et Louis XV, ayant appris que la moitié de ses cousins et le reste de la famille étaient initiés, était très gêné. Il a demandé au Parlement de ne pas enregistrer la bulle d'excommunication en France. Voilà. Bon. Mais alors, cela dit, je finis aussi là-dessus.
Oui.
Moi, je suis toujours, et je continue à être agacé par des gens que je crois intelligents, brillants, avec qui j'ai des conversations. Et le jour où on parle deux mots sur la maçonnerie, c'est même pas la peine d'essayer de dire quelque chose d'un tout petit peu, je sais pas, vrai, mais un peu sympathique. Tout de suite, c'est fini. Et je m'aperçois que les gens, les mêmes qui vous font ça, ils savent pas ce que c'est que le loge, ils savent pas ce que c'est que le vénérable, ils savent pas ce que c'est... mais ils ont une idée formidable sur la maçonnerie.
Non, alors, il y a bien une cinquantaine de pages sur ce sujet, dans lequel vous racontez d'ailleurs toutes vos conversations et les émissions que vous avez réalisées avec Jean Ferré à ce sujet.
À ce sujet. Voilà. Ah ben, je veux dire que quand Jean Ferré m'a dit « Venez, on va parler de franc-maçonnerie », ben, j'ai dit « D'accord ». Et je me suis dit, c'était les débuts de la radio, enfin les tout débuts, je me suis dit...
Alors, rapprochez-vous du micro.
Oui. Oui, mais je me laisse aller. C'est vrai.
Heureusement que Philippe nous rappelle alors.
Ah ben oui, il est là pour ça. Merci Philippe. Et Philippe Égalité.
Oh là là. Ah ben, on en dira un mot tout à l'heure.
Si vous voulez.
Ce franc-maçon-là n'a pas été très royaliste.
Non, c'est une ordure. Et Jean Ferré, je me suis dit, Jean Ferré me fait venir parce que c'est un journaliste, il veut faire un coup. Parce qu'il connaît son auditorat. Aujourd'hui, c'est un peu plus calmé. Mais quand je suis arrivé ici, le premier soir, le rendez-vous avec Jean Ferré, Jean Ferré me serre la main en tournant la tête. Et toutes les dames pieuses qui étaient au téléphone ne me saluent pas. Et il y a un monsieur, l'abbé Bartel, le curé.
Qui, prêtre, lui, vous tombe dans vos bras.
Qui prend dans les bras, il dit « Mon frère, vous restez avec nous à la fin de l'émission parce que j'œuvre toujours un coup de vin et j'ai amené ma bouteille de Cahors et vous restez avec nous pour un coup ». Bon, ça s'est un peu détendu, mais dans les questions qui sont tombées pendant l'émission, c'est lorsque ce monsieur sera parti, il faut faire venir le grand exorciste de Paris. Bon, et quand on a refait une émission 20 ans après sur Radio Courtoisie, il y avait des questions un peu hardes, un peu difficiles, mais plus jamais ce genre de choses. Non, un peu raisonnable.
Alors voilà pour la séquence maçonnique de l'ouvrage, puisque votre ouvrage se présente en séquence.
Oui, ben justement, alors la première séquence, c'est la maçonnerie.
Bon, on ne développe pas sur le Philippe Égalité, dont vous parlez d'ailleurs.
Il a été grand maître du Grand Orient de France.
Pour montrer qu'il y avait des exceptions au sein de la maçonnerie, de gens qui n'ont pas été très fidèles.
Louis XVI a été initié, contrairement à ce que racontent les gens, ça l'a pas empêché de se faire couper le cou. Et Robespierre a été initié, il a eu le cou coupé aussi. Il faut dire que c'était un peu le bazar dans cette maçonnerie à l'époque. Mais enfin, c'était comme ça.
Alors, ce qui suit, ce sont des articles de minutes, pour la plupart, que vous n'avez pas forcément signé sous votre nom.
Non, j'ai signé Jérôme Brigadier. Alors Jérôme, parce que c'est le prénom de mon premier filleul, et Brigadier, parce que c'est le bâton qui sert à frapper les trois coups. Ben, ça s'appelle un brigadier, c'est gainé de velours rouge avec des clous. Et d'ailleurs, pour mon 30e anniversaire, monsieur et madame Varlet, qui travaillait un peu pour Radio Courtoisie, pour Beckett, je m'avais offert un brigadier. J'ai donc chez moi un brigadier qu'ils avaient fait fabriquer dans les ateliers de la Comédie Française. Et maintenant, on peut en trouver. Donc, Jérôme Brigadier, c'était mon filleul, et puis parce que c'est le théâtre. Mais aujourd'hui, ça dit rien aux jeunes gens, puisqu'il n'y a plus de décor, il n'y a plus de rideau, et on ne frappe plus les trois coups.
Alors, il y a une centaine de pages d'articles dans Minute, et ce sont des articles particulièrement intéressants parce qu'ils recensent pratiquement tous les films et toutes les pièces de théâtre intéressantes des années 90 à 2000.
Et qui peuvent encore avoir un petit écho aujourd'hui parce qu'elles ont laissé une trace. Ou alors il y a une chose...
Avec même la révélation d'un certain nombre de comédiens. Je pense à Chantal Latsou, par exemple.
Chantal Latsou qui débute à la Potinière. Mais alors vraiment, c'est petit. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, j'y vais. Je trouve cette bonne femme extraordinaire. J'en fais un papier. C'est le premier papier qu'elle a eu dans la presse.
Deux mots pour tout résumer. Quelle santé! Enfin, une rigolote agréable à regarder. C'est constamment drôle. Ça frise la vulgarité parfois. Ce n'est jamais méchant. C'est roboratif. Nous découvrons un cyclone qui déploie un vrai talent de comédienne. Elle joue sans cesse avec le public qui en redemande. Les sketchs fort simples, bien construit, n'épargne rien, ni personne, ni elle-même, bien sûr. Belle autocritique, à ne manquer sous aucun prétexte. Le numéro où Chantal Latsou emboîte les fumeux artistes peintres, éternel maudit et incompris de la palette et des pinceaux. Cela pourrait devenir un tube, tant cette peinture est grandiose de dérision. Allez à la potinière voir et entendre Latsou, votre bonne humeur prendra le dessus.
Quel talent.
C'est quelle promotion. Et quelle promotion.
C'est pour dire que vous aviez... Ça pouvait être des billets, hein, comme on dit, aussi bien que des analyses beaucoup plus développées.
Mais ça l'a marqué, parce que des années après, alors qu'avec un grand succès, elle jouait « Ma femme est folle » au Théâtre des Nouveautés. Non, des variétés, pardon. Non, des nouveautés. J'ai toujours, toute ma vie, j'ai confondu les deux. Avec mon copain Franck de la Personne, elle se souvenait de ce papier. Parce que c'était le premier.
Et d'ailleurs, il existe une très belle photo de vous avec elle.
Oui.
Que j'ai découvert dans vos mémoires.
Dans un bouquin qui est épuisé. Oui, oui. Ah bah, sur la photo, il y a Charles-Philippe d'Orléans, Chantal Latsou, Franck de la Personne et ma pomme.
Oui, exactement.
C'est alors, des souvenirs.
Voilà. Donc là, bon, spectacle à la Potinière, mais également beaucoup de cinéma. Et là, vous donnez vraiment un peu dans tous les genres. Hein,
c'était la volonté de Serge, parce que quand il m'a confié la rubrique, il m'a dit, vous savez, la rubrique, elle est faite par un garçon qui travaille à la comptabilité, qui fait ça, parce qu'il va comme tout le monde au cinéma, mais dans le fond, ça lui casse un peu les pieds. Est-ce que vous voulez pas la prendre, la rubrique? Alors ben, j'ai dit, oui, je la prends, mais il me dit, vous parlez de tout, et vous pouvez être un peu vache, mais ne soyez pas trop méchant, parce que n'oubliez pas que derrière toutes ces choses, il y a du travail. Il y a des gens qui ont travaillé, c'est pas la peine de les démolir. On peut quand même dire une vacherie, mais il faut pas les démolir systématiquement. Et j'ajoute que je n'avais pas cru une seconde à ça, quelques jours après que Serge m'ait engagé, mais comme ça, je reçois un coup de téléphone de Mme Varlet, qui à l'époque était sa secrétaire, et qui me demande mon numéro de sécurité sociale, parce que Serge avait décidé de me payer. C'est rien de faire une critique de film, hein. Vous sortez du cinéma, vous prenez un crayon, c'est fait. Toutes les semaines, il y avait une critique, ok, qui représentait l'équivalent de mon salaire mensuel à la Société du Cheval Français, qui était déjà un salaire très important. J'ai fait fortune sous minute.
Alors vous avez fait fortune sous minute, mais par contre vous avez été dans l'indigence absolue sous le libre journal de la France Courte.
Ouais. Alors bah oui, puisque c'est la partie la plus importante de la recension. Écoutez, quand Serge s'est retrouvé jeté de tous les côtés. Il y a eu 1000 tentatives. Enfin, tous les gens qui, tous les matins, lui disaient qu'il était le plus talentueux, le plus beau, le plus tout ce qu'on veut, personne ne lui a vraiment tendu la main. Et Daniel de Bekesh, discrète mais qui réfléchit, lui a dit, il y a une solution, en plus avec ton caractère, ça serait mieux que tu aies ton propre journal. Bon, c'est facile à dire, mais après, il faut le faire. Donc, il s'y est mis, et un beau jour, il a convoqué chez lui des gens, et c'était des collaborateurs de Minute qu'il ne dirigeait plus. Et il a eu ce mot magnifique, il a dit « Je vais créer un journal, mais je veux le faire qu'avec des gens que j'ai plaisir à lire. » Et comme il m'avait convoqué, je me suis dit « Ça y est, je viens de recevoir la Légion d'honneur. » Et je me suis senti tout dévoué. Oui. Et à partir de cet instant, du premier au 416e numéro, qui était celui de sa mort, j'ai toujours eu mon nom. Alors, on a changé les noms, on était Chirias, Olmeta, Thomas, machin, enfin, pour que ça fasse un peu grossir l'ours. Et j'ai toujours été présent. Alors, trois lignes ou trois pages, mais toujours. Jusqu'au jour, il m'a confié la page 22 en me disant, voilà, bon. Mais quand il nous avait réunis, il avait dit, je crée ce journal pour essayer de survivre avec ma femme et mes enfants, qui étaient encore en âge d'être à la maison. Et alors, je vous paierai pas. Alors, il y a deux personnes, dont un qui avait une émission ici, qui se sont levées et qui sont parties. Je dirais pas les noms. Mais déjà, je trouvais que c'était pas très heureux. Et puis, il a tenu parole. Mais ça se passait quand même pas comme ça. Il connaissait bien ses collaborateurs. Et il y a celui à qui il payait sa carte orange. Il y a l'autre à qui il payait le téléphone. Il y a celui qui disait, Serge, tiens, voilà mon papier. Mais tu sais, là, viens, on va aller à la tirette et puis je vais te donner un peu d'argent. C'est-à-dire qu'il a jamais payé personne officiellement, mais tous ceux qui ont été autour de lui avaient parfois des situations meilleures qu'avant de le connaître. Bon, alors moi, c'est comme ça. Il se trouve qu'en fonction de tout ce que je viens de vous dire, j'avais vraiment pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Mais néanmoins, quand on allait dîner tous les deux ou tous les trois avec son épouse, il n'y avait rien à faire. Je les invitais à dîner. Jamais. Et c'est lui qui payait. Alors, c'était un mot quand il a dit « je pourrais pas vous payer », mais il a été généreux avec tout le monde quand même. Voilà.
Bah, c'est pas les mêmes salaires que Minute, bravo.
Non, c'est ce qu'il voulait dire, peut-être. Minute,
alors, y a des...
C'est peut-être ce qu'il voulait dire.
Ni que chez toi, mais.
Ah bah,
non, mais là,
on en parlera après, ils sont en antenne.
Non, mais chez toi, c'est un honneur, bon, voilà. Non, non, je plaisante.
Chez moi, on est obligé de s'abonner quand on écrit dedans.
Alors, évidemment, on trouve des.
Tandis que Serge, il nous servait un abonnement.
On trouve des recensions de pièces de théâtre, de films, et on peut dire que tous les grands films ou tous les grandes pièces de théâtre de l'époque ne sont pas oubliées. Hein.
Ah non, justement.
Parce que entre Polanski, même Polanski.
Et oui, mais ben, attendez, Amédéus.
Ou même le Léon de Luc Besson.
Ah enfin, oui, bien sûr.
Vous n'oubliez personne.
Évidemment, j'ai pas tout repris hein, de ce que j'avais publié. J'ai pris ce qui, justement, d'accord, aujourd'hui pouvait encore parler aux gens.
Oui,
pour une raison ou pour une autre. Mais c'était des vraies œuvres. C'est aussi, bon, on pense ce qu'on veut de Polanski. C'est un excellent comédien dans le Mozart Besson.
Alors, faut pas oublier l'opéra, hein, parce que vous êtes un grand amateur d'opéra.
Oui, ah ben, je viens de tout envoyer sur les roses hier.
Ah bon,
oui, j'ai démissionné de l'Europe parce que j'en ai marre de voir des têtes de cons qui connaissent rien à l'opéra mais qui viennent se pavaner et qui, enfin bref.
Bon. Et il faut pas oublier les ballades. Et moi, j'ai très envie de vous faire lire la fameuse ballade au château de Monte Cristo de novembre 1994, qui est donc parue dans le Libre Journal de la France courtoise.
Ah, alors allons chez Alexandre Dumas. Attendez.
Alexandre Dumas qui fait quand même un peu l'unanimité ici.
Ah oui. Ah bah oui.
Parce que Jean Ferré aimait, adorait Alexandre Dumas.
Mais attendez, Alexandre Dumas, comme quoi on peut raconter tout ce qu'on veut. Là aussi, nous qui aimons Alexandre Dumas, on n'a jamais regardé sa couleur. Bon, il écrit bien, il aimait la France, il a fait des enfants adultérins à la France, mais ils sont très beaux, à l'histoire, je veux dire, enfin, il a un peu baisé l'histoire, mais il a fait des beaux enfants avec.
Oui, oui, d'accord.
Alors, vous voulez ça. Donc, nous sommes en novembre 1994. Ballade. Le château de Monte Cristo. Mon père était le général républicain Thomas Alexandre Dumas Dany de la Pailleterie. Lui-même fils du marquis Antoine-Alexandre David de la Pailleterie, colonel et commissaire général d'artillerie, auquel appartenait par héritage la terre de la Pailleterie, érigée en marquisat par Louis XIV en 1707. Les armes de la famille étaient d'azur à trois aigles d'or au vol éployé, posées... Pardonnez-moi, mais c'est pas bien éclairé, hein, je le dis comme ça. Et puis j'ai des yeux un peu fatigués. Je continue. Posées 2 et 1 avec un anneau d'argent... placé au cœur. Donc ça, c'est vraiment la grammaire héraldique. Embrassé par les griffes, ah parfait, merci, destre et senestre des aigles du chef et reposant sur la tête de l'aigle de pointe. Là, on est donc dans la description héraldique. À ses armes, mon père, en s'engageant comme simple soldat, préféra la devise « Deus dedit, Deus dibit, Dieu a donné, Dieu donnera ». Je ne sais ce qui déterminera mon grand-père à s'en aller fonder une habitation à
Saint-Domingue.
C'est là que mon père naquit de l'esclave Louise Cosette Dumas et du marquis de la Pailleterie le 25 mars 1762. Ainsi débutent mes mémoires d'Alexandre Dumas, le bon géant foncé et crépu. Lui qui, pour mener à bien son œuvre immense, devait s'adjoindre plusieurs nègres, dont le plus célèbre Auguste Maquet, et devenir châtelain de Port-Marly, où il s'installa en 1844 pour y faire construire l'année suivante son superbe château néo-renaissance, Monte Cristo, qui devint un temps son fief. Alexandre Dumas a mis dans cette demeure tous ses rêves engloutis, tous ses rêves de fortune. Le domaine, ouvert au public après une formidable restauration, respire encore aujourd'hui l'atmosphère de toute l'œuvre romanesque de l'écrivain. Il fit également édifier en surplomb le château d'If, véritable château d'opérette, entouré de douves, qui devenait son cabinet de travail lorsque la maison était envahie de brillants et bruyants invités venus de Paris. Tout ce qui comptait dans la capitale finissait volontiers le voyage pour visiter le maître. Il fallait à peine une heure. Aujourd'hui, certains soirs, le double. Hein, c'est ça le progrès. Maintenant, il faut 2 heures pour aller à Monte-Cristo, avant il fallait 1 heure. Vous observerez dans les murs du château d'If les plaques où figurent les titres des œuvres du grand Dumas. De toutes les restaurations, une suscite particulièrement la sympathie pour le généreux donateur. C'est celle de la chambre mauresque, offerte en 1985 par Sa Majesté le Roi Hassan II du Maroc, inconditionnel d'Alexandre Dumas. N'hésitez pas à vous balader aussi dans les 9 hectares du parc, du jardin d'Edé aux multiples cascades et rocailles, en passant par les grottes naturelles creusées un peu partout. Vous retrouverez dans l'extravagance et la générosité du cher Dumas. Cette folie et quelques autres devaient aboutir à la ruine du célèbre écrivain. Son fils, naturel Alexandre, dit Dumas-fils, lui assura une fin de vie décente. L'auteur de La Dame aux Camélias aimait à dire avec tendresse « Mon père est un grand enfant que j'ai eu sur le tard. Pardon. Puisque vous serez à quelques pas, essayez de visiter la machine à eau dite de Marly, qui permettait d'alimenter le bassin de Versailles. Vous pouvez aussi aller au bout de la ligne, à Saint-Germain-en-Laye, chez Jean Ferré, que son maire, Michel Péricard, maintient courageusement à un haut niveau d'élégance et de sécurité, ce qui est difficile, car ici, comme ailleurs, la ville natale de Louis XIV, ce qui lui vaut un berceau et une fleur de lys dans ses armoiries, offre à l'amateur d'histoire un grand nombre de sujets. Par exemple, le célèbre château et ses collections en face de l'église se trouvent la sépulture Jacques de Stoire, mort dans les bras de Louis XIV, accouru à son chevet. Dans les locaux annexes de la mairie, on peut admirer la superbe apothicairie contemporaine du Roi Soleil et l'une des plus importantes d'Europe, comme ils disent. À voir aussi, bien que moins connu, le château du Maharaja, à l'origine château d'Enbon, lorsqu'il fut construit au début du siècle par le pharmacien Canon. En 1926, le Maharaja d'Indore l'acquiert et y ajoute quelques motifs orientaux. Endormi en 1939, la propriété est achetée en 1951 par l'État, qui en fait un lycée national. Saint-Germain-en-Laye est une ville qui se visite à pied, ce qui permet de goûter les façades restaurées de nombreux hôtels datant du règne de Louis XIV. Beaux magasins aussi, beaucoup d'élégance, à quelques pas de la forêt, accès facile par le RER et nombreux parcs de stationnement. Précision.
C'est
autre chose. Ah, pardonnez-moi d'avoir mal lu.
Oui. Non, mais écoutez, vous tenais à ce que vous lisiez, puisque c'est une de vos, c'est une des chroniques de l'ouvrage, et qu'il y a beaucoup de balades à découvrir.
Est-ce que vous avez remarqué que, malgré mes efforts, parce que j'essaye de me retenir, et ben ça m'a suscité toujours la même émotion.
Oui.
Quand je cite le fils de Dumas, qui dit « Mon papa est un grand bébé que j'ai eu sur le tard. Oui. » Parce qu'il était devenu gâteux, le vieux. Et son fils disait ça, je trouve ça très touchant.
Oui. J'aimerais que le mien... Bah, malheureusement, oui, c'est ce que certains vivent dans leur propre famille, effectivement.
Oui, mais il a été très gentil avec son père. Alexandre Dumas a fini sa vie d'une façon formidable, à Trouville, tout ça.
Une vraie piété filiale.
Oui, non, mais en plus, il disait pas ça comme un calvaire. Il était content d'avoir un bébé, quoi, son fils. Voilà, pardonnez-moi.
Donc, balade, bien sûr, et voyage. Il y a des voyages en Chine, par exemple. Il y a des voyages au Vietnam, enfin.
Oui. La baie d'Along.
Même en Australie. Alors, il y a des messages d'auditeurs et auditrices. Alors, je cite le message de cette auditrice. Merci de nous offrir ce délicieux moment sur le Marquis. Un auditeur, vous avez parlé de Jean Marais, un film merveilleux et poétique de point, La Belle et la Bête. Oui. J'ai été marqué par ce film, n'oublions pas non plus Fantômas. Merci pour votre émission.
Ah bah écoutez,
vous avez peut-être un mot à dire sur Jean Marais,
oui, alors,
que vous avez connu.
Je vais faire un préambule comme faisait Jean Ferré. On m'accuse toujours de parler de gens qui sont morts, donc par conséquent je peux raconter n'importe quoi. Mais j'ai des preuves, et puis je parle aussi de gens connus encore. Et ben Jean Marais, ben oui, il a fini ses jours à Montmartre, à la Folie Sandrin, et il avait un vieux copain, qui s'appelait Piral. Ça vous dit quelque chose, Piral ?
Le nain Piral,
qui s'il n'avait pas été nain, aurait pu jouer le Cid. Hein. C'était un vrai comédien, il avait fait le conservatoire. Et ils étaient très, très attachés l'un à l'autre, et puis ben, ils connaissaient Michou, tous ça habitant Montmartre, et moi aussi. Et alors, curieusement, mais à Montmartre, rien n'étonne personne. Les Montmartrois ne sont pas étonnés par tout ce qui peut se passer parce qu'ils sont revenus de tout. Il y a des touristes à Montmartre. Et pendant des années, le dimanche matin, nous allions Jean Marais, Piral, Michou et moi à la messe à Saint-Jean de Montmartre. Et après, on faisait notre marché, on s'arrêtait pour boire un coup de rouge. Et c'était bon. Et puis, en dehors de ça, Jean Marais, je l'ai connu quand il a fait mon portrait. J'ai mon portrait par Jean Marais, et j'ai trouvé que c'était un type qui était très courageux, qui était... Il n'était pas très, 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 très cultivé, mais il était très malin. Et la grande idée qu'il a eue, c'est à la mort de Cocteau, d'un peu de récupérer toute leur histoire qui était finie depuis très longtemps, et de sauver un peu la mémoire de Cocteau, et ça a fait de lui un peu un intellectuel. Voilà. Et je lui rends hommage à cause de ça. Et ce garçon qui avait été beau toute sa vie, en vieillissant, il s'était fait une gueule pas possible, il avait une grande barbe, les cheveux longs, une espèce de robe de bure et tout, il avait une gueule folle. Voilà, Jean Marais.
Et il était très avenant. Vous savez qu'une fois, j'attendais l'autobus dans une station justement de Montmartre, et puis je fixe cet homme sans savoir de qui il s'agissait, parce qu'effectivement, avec sa grande barbe blanche, etc., et il a cru que je le reconnaissais, et du coup, il est venu vers moi, m'a parlé, m'a salué, et j'ai trouvé que c'était d'une délicatesse, d'une gentillesse, et je me suis dit, tiens,
c'était plutôt qu'il y avait longtemps qu'on lui avait pas demandé un autographe.
J'en étais pas là.
Il en aurait ri le premier. En revanche, Piral, qui était un type extraordinaire, d'une grande culture, il était, comme souvent les messieurs pas très grands, un peu vachard.
Alors, deux films que vous appréciez particulièrement, avant de terminer sur les portraits, parce que le temps passe terriblement vite. Et puis, il y a les autres livres, alors on va aller très très vite. Vous faites l'éloge des Misérables de Claude Lelouch et de l'honneur perdu de Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand.
Ah, sublime. C'est un film absolument sublime.
Oui.
Et Dieu sait que le Fredo, c'est pas ma tasse de thé.
Non.
Mais
là, vous dites que vraiment, il a évité la japonaiserie de bazar qui s'attache habituellement à ce chef-d'œuvre.
Oui, c'est vrai. On met toujours des kimonos, des machins, des éventails. Bon, on va pas finir.
Alors,
sur
c'est
Frédéric
vrai que non, mais c'est vrai que le temps passe très vite. J'avais sélectionné votre voyage à Hong Kong, mais on n'en parlera pas parce que je voudrais quand même dire un mot
de ce
que
lire.
Fait nos. Oui. Et puis vous parlez du Festival de Cannes.
Oui, de Cannes.
Il y a un grand article sur le Festival de Cannes, extrêmement drôle.
Je parle pas de la maison de retraite de mon père.
Non, effectivement. Et je voudrais quand même dire un mot des productions de Roland Ely, puisqu'il vous donne la parole à chacun de ses numéros, de sa revue, de la revue qu'il dirige. Il nous reste 4 minutes pour en dire un mot.
En 4 minutes, alors.
Non, tu me laisses une minute pour
Oui,
pour une annonce.
Oui, je crois qu'il y a une annonce importante.
Non, vas-y, je le ferai à la fin.
À la fin. Donc, écoutez, Jean-Paul collabore régulièrement à la revue Synthèse Nationale, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Synthèse Nationale qui vient d'éditer deux livres, en particulier lié un guide sulfureux du Paris réac et facho que l'on peut trouver maintenant dans les bonnes librairies et que l'on doit à Patrick Parment qui sur 420 pages reprend un petit peu rue par rue tout ce qui a pu se passer, qui peut intéresser
les non-conformistes que nous sommes. Éditeurs, partis, journaux, hommes politiques et autres curiosités, les rues ont une histoire.
Exactement, mais tout est résumé et tout ça c'est raconté dans ce guide sulfureux du Paris réac et facho de Patrick Parment.
Au prix de 27 euros auprès de Synthèse Nationale.
Que l'on peut acheter, évidemment, on peut se le procurer sur le
Quelle
site.
Quelle est l'adresse de Synthèse Nationale?
Alors, le plus simple, pour ceux qui peuvent, c'est tout simplement de consulter le site www.synthèse-édition.com et autrement, le commander à Synthèse Nationale, 9 rue Parot, 75012 à Paris, ou aller tout simplement dans les bonnes librairies où on peut le trouver. Voilà, ça c'est pour
Alors,
ce qui concerne...
Alors, précisons que vous, dans le cadre de vos cahiers d'histoire du nationalisme, un numéro consacré à Mosley.
Oswald Mosley, oui.
Voilà, pour 20 euros, toujours.
Oui, toujours à la même adresse, www.synthèse-édition.com.
Et que vous consacrez une revue qui s'intitule Confrontation aux problèmes liés à l'immigration.
Voilà. Voilà. Et le numéro de Synthèse Nationale qui sort la semaine prochaine.
Cher Benoît, vous pouvez quand même dire mon éditeur, le prix du livre et tout?
Alors, votre éditeur, je ne le connais pas, en fait. Votre éditeur.
Alors, je vais vous le dire, c'est Via Romana.
C'est très connu. Bon.
Alors, votre ouvrage, ce monument dont la couverture est en verger blanc, n'est-ce pas, avec rabat, est un tirage limité à 100 exemplaires,
200.
Vendu à 39 euros.
Ben voilà.
Et donc commandable par Internet chez Via Romana directement, puisqu'il n'est pas en librairie.
Alors il nous reste 2 minutes. Eh bien, je vais
quelques annonces.
Oui, une seule.
C'est entendu.
Simplement pour dire que la prochaine émission, donc celle-ci, la prochaine fois, ce sera le 22 août. Et Dieu voulant, je recevrai M. Thibaut Ganduli pour qu'il nous parle de Paul de Cassagnac, le journaliste qui a un peu chatouillé Napoléon III. Et comme en ce moment, je suis en plein Napoléon III, ça me chatouille aussi.
Devrait être passionnant parce que c'est un très jeune... historien,
justement,
agrégé d'histoire.
Je lui demanderais qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme aujourd'hui à avoir envie d'être historien.
Oui. Alors, un auditeur, Alexandre Dumas est le seul écrivain noir qui a eu des nègres blancs.
Ah, c'est très joli ça, mais c'est pas... Enfin, on l'avait déjà fait, hein, mais c'est très joli.
Et puis alors, bonjour monsieur, un adhérent de Radio Courtoisie, merci pour vos émissions, donc c'est si vivante et si personnelle. Savez-vous si l'on a des nouvelles de Roger Hollande?
Roger Olyndre, il y a peut-être deux mois et demi, j'en ai entendu parler, il avait l'air d'aller bien.
Bon, on m'a dit hier que ça allait à peu près pour le moment,
que
ça allait à peu près bien. J'ai eu quelqu'un qui l'avait eu récemment, et voilà.
Eh bien, alors, je vais laisser le Marquis conclure sa propre émission.
Eh bien, alors, je vais remercier... c'est très compliqué, c'était mon émission, c'était la vôtre, en fait. Bon, je suis très heureux de cette réunion d'amis. Et puis, dans le fond, je suis un peu comme dans la chanson de Julien Gréco, parlez-moi de moi, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, il nous reste combien de temps? Une demi-seconde,
Oui.
Et bien, on va dire aux auditeurs qu'on les aime et qu'on est toujours heureux de les retrouver. Et qu'en tout cas, moi, ça sera la prochaine fois, donc le 22 août. Vous pouvez toujours m'écrire, m'envoyer des messages. Je m'efforce de répondre avec joie.
Eh bien, à la prochaine fois, chers auditeurs et auditrices.
Voilà. À bientôt. Bonnes vacances à tous.
Et merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Charigues de Olmeta, diffusée en direct mercredi 25 juillet 2018 de 10h45 à 11h45 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.